19h sur campus, tout de suite, c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Il c'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu me retiens dans 10 secondes!
Et même du sport.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien à bord du sous-marin et on est ensemble pendant une heure pour décrypter l'actualité. Avec nous dans le studio ce soir, Claire Mpondo-Sadé et Nicolas Dourliez, bonsoir.
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 Alors vous êtes respectivement directrice de la culture de la mairie des Ponce et membre de l'association Jazz Connexion. Avec vous, on parlera du temps fort autour du jazz organisé par la commune. On parle évidemment de jazz aux dames. Également à nos côtés, Yves-Henri Guillonnet et Niels Benning, bonsoir.
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 Vous êtes, vous, respectivement vice-président et fondateur, cofondateur de la Galerie en face qui fête ses 3 ans. Et puis également au programme de cette émission, le cabinet des curiosités d'Antoine. Mais comme d'habitude, on commence par un reportage.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Ce midi, une centaine d'enseignants et de salariés de l'administration de la Cato manifestaient pour montrer leur lassitude et leur découragement liés à la réforme facultaire. On écoute Alain Bihan-Poudaec, enseignant-chercheur en faculté d'éducation et délégué syndical CFDT.
Avant, la Cato était organisée en institut, puis ces instituts sont organisés maintenant sous forme de faculté et de manière concomitante à cela, il y a une organisation qui dysfonctionne. D'un côté, vous avez le recteur, les doyens qui prennent les décisions politiques, l'orientation académique donc, tout l'aspect académique, et il y a le secrétaire général, le DRH qui met cela en application, qui sont amenés à gérer l'ensemble des réformes. Et malheureusement, ça se passe plutôt mal.
Les salariés reprochent un manque de reconnaissance du travail des salariés, mais aussi un manque de considération des étudiants, à l'image de l'antenne créée à Nantes, où la centaine d'étudiants a dû pousser un sacré coup de gueule pour avoir un référent sur place, à savoir la création d'un poste en secrétariat. Alain Bihan-Poudaec constate aussi une dégradation des relations avec la direction.
Antérieurement, il était toujours possible d'avoir des idées, les exprimer. Dans les instituts, il y avait des conseils de direction, les idées circulaient, les gens participaient. Maintenant, les décisions sont prises en haut et c'est appliqué et malheureusement souvent mal appliqué.
Quand vous dites maintenant, vous constatez ça depuis quoi?
Depuis 2 ans, depuis l'arrivée, le renouvellement de l'équipe dirigeante, puisque notre recteur, le secrétaire général, le DRH, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans qu'ils sont là. Et je pense qu'il y a un fond de méconnaissance de ce qu'est une université. Bon, une anecdote comme ça, en comité d'entreprise, je suis aussi au comité d'entreprise, on fait des efforts. C'est-à-dire, par exemple, un comité d'entreprise, je ne sais pas si vous voyez comment c'est organisé, il y a des questions qui sont posées, des ordres du jour, et on répond. Maintenant, on le donne 15 jours, 3 semaines avant pour qu'ils aient temps de préparer. Et arriver la question de la recherche, la politique de recherche, et puis les petits trucs techniques, mais qui sont très importants pour la formation à la recherche, pour que les maîtres de conférences puissent continuer la recherche, que l'on puisse former des gens à préparer la thèse, c'est quand même l'université, arrive cette question-là, et de lui-même, le secrétaire général et le DRH ont dit on ne connaît pas le sujet, point suivant. Donc c'est un manque de dysfonctionnement, ils pouvaient très bien, ils avaient 15 jours, demander au vice-recteur chargé de la recherche de venir, ou il aurait pu répondre par écrit, donc voilà. C'est le fonctionnement est très très souvent comme ça, malheureusement. Ce qui fait, effectivement, c'est la lassitude, c'est l'énervement.
Alors, ça vous fait réagir autour de la table, ce sujet. Je pense notamment à l'angle, en fait, sur le manque de reconnaissance de la part d'une direction, d'une administration par rapport au travail de ses salariés. Je ne sais pas qui veut y aller. Niels, peut-être.
Je ne sais pas trop. Pardon, je ne sais pas trop. Je ne connais pas vraiment l'université de La Cato. Mais il me semble qu'il n'y a pas que dans cette université que ça se passe comme ça. Et il y a peut-être pas mal de choses à revoir aussi, quoi.
Effectivement, apparemment, en tout cas, si on écoute les personnes, ou du moins la personne interrogée, ça vous fait réagir autour de la table. Je ne sais pas, Claire Mpondo-Savé.
Je dirais aussi, si je puis me permettre, parce que c'est vraiment un sujet que je ne connais pas du tout non plus, mais que c'est malheureusement des situations qu'on vit de plus en plus parce que manque de moyens, parce que tensions diverses liées à tout un tas de difficultés qui convergent. Et là, ce qui manquerait en fait au reportage, c'est peut-être une autre voie, parce que là, c'est que dans un sens, pour mieux comprendre. Mais je suis pas surprise.
Alors Antoine, tu voulais réagir aussi.
Alors justement, pour rebondir sur vos propos, vu que je connais un petit peu le milieu de l'UCO, les autres voix, c'est-à-dire les organes un peu dirigeants de la CATO, n'ont pas envie vraiment de s'exprimer sur le sujet, que ce soit en CE ou quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on les a pas forcément entendus. Voilà.
Exactement. Merci Antoine.
Mais je garde un droit de réserve par rapport à tout cela, vu que je ne connais pas totalement le dossier.
Très bien. Eh bien, le sous-marin revient juste après ça. Vous êtes toujours dans le sous-marin sur les ondes de campus. À l'instant, vous venez d'entendre Saint-Germain avec le titre Real Blues. Et du blues au jazz, il n'y a qu'un pas que je vais franchir sans, voilà, sans attendre. Hein. Tout le monde me fait des petits signes sur cette magnifique transition. on sent qu'il y a du rire en studio. Alors, nous sommes en compagnie de Claire Mpondo-Sadé et Nicolas Dourliez. Les Ponce organisent en cette fin décembre, c'est de jeudi à samedi, un temps fort autour du jazz qu'on appelle Jazz aux Dames. D'où est partie l'idée de faire ça?
Alors déjà le nom, Jazz aux Dames.
Oui, commençons par ça.
En un seul mot. L'idée, c'était le Théâtre des Dames, donc le Théâtre des Ponce, qui est un lieu qui nous paraît beaucoup être un lieu idéal pour la musique. Et le fait que ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de jazz proposé sur les Ponce. Donc voilà, l'idée première, c'est celle-là. Et ensuite, l'idée de l'accessibilité, de ne pas faire peur. Et en même temps, d'oser avoir une proposition éclectique. Et du coup, comme ce n'est pas mon domaine, on va dire, de spécialisation, j'ai fait appel à des spécialistes. Donc j'ai contacté l'association Jazz Connexion. Donc Nicolas, je te laisse la parole, Jazz Connexion.
Alors bonsoir, Jazz Connexion, c'est une association qui existe depuis maintenant 2 ans sur Angers et qui a pour but la promotion, la diffusion du jazz sur la ville d'Angers et ses environs. Et on a organisé quelques concerts de ci, de là, notamment à l'espace culturel de l'Université d'Angers, au Terreau Coco, au bar Le Wallabies qui se situe boulevard Fauche. Et donc Claire nous a contactés pour qu'on lui fasse des propositions d'artistes qui iraient dans le sens qu'elle voulait mettre par rapport à son temps fort Jazz aux Dames. Et pour la petite anecdote et la petite blague, il se trouve qu'on est collègues en fait avec Claire et qu'elle ne le savait pas quand elle m'a contacté, mais que du coup bah, ça a facilité encore plus le rapprochement.
Il a traversé la rue.
Voilà.
Oui, forcément, c'est toujours plus pratique hein, dans ces cas-là. Alors l'idée c'est de montrer la diversité du jazz à travers les 3 jours. Là. Vous parliez d'éclectisme tout à l'heure. Effectivement, quand on parlera un petit peu plus tard de la programmation plus en détail, mais à première vue, c'est vrai qu'il y a une vraie diversité dans ce que vous proposez.
Alors, si on voulait être mauvaise langue, on dirait qu'on fait un grand écart. On a une approche classique. On peut dire ça, hein, avec le Camiliacus Jazz Band, et puis une approche vraiment contemporaine et accessible, parce que c'était vraiment l'idée, avec donc Hildegard Lundfliegen. Je ne sais pas si je le prononce bien en fait.
On se tourne vers Nicolas. Hein.
Ouais, non, mais moi je suis fan de jazz, mais pas spécialement... connaisseur de la langue flamande, puisque je pense que c'est du flamand. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Juste pour rebondir sur ce que dit Claire, et là c'est plutôt du côté de Jazz Connexion que je vais me placer, c'est vrai que ça permet de montrer toute la diversité du jazz à l'heure actuelle, c'est-à-dire à la fois du répertoire, donc bien inscrit dans les racines de cette musique, mais aussi de la production très contemporaine, mais également pas proposer du jazz uniquement en termes de spectateurs un petit peu passifs, puisque le vendredi soir, la proposition qui sera faite permettra au public d'être acteur de son, pas son concert, mais en tout cas de sa soirée, pour, en posant des questions aux musiciens qui sont invités. Enfin, on en parlera tout à l'heure, j'imagine.
Exactement. Thibaut ?
Je me demandais oui, si c'était difficile à animer une ville comme les Ponts-de-Cé quand on se retrouve dans une zone d'influence d'une ville comme Angers qui est assez active culturellement.
Alors l'idée, c'est d'être vraiment en complémentarité. On travaille ensemble en fait, avec les acteurs du territoire, déjà, et d'une. Et de deux, on a un territoire qui est très particulier. Les gens, en fait, on a besoin d'une culture de proximité aussi. Les gens ne se déplacent pas forcément jusqu'à Angers. Et en plus, les Ponts-de-Cé a une géographie un peu particulière où en fait c'est très très étalé avec plein de petits îlots. Donc il y a voilà un vrai défi qui est donné pour nous.
Et c'est pour ces raisons d'accessibilité que vous pratiquez une politique de tarifs relativement basse pour permettre d'ouvrir au plus grand nombre.
Tout à fait. C'est exactement la raison.
Vous tapez sur des jauges de combien à peu près pour chaque soirée ?
Alors quand c'est au Théâtre des Dames, c'est 200 places puisque notre théâtre a une petite jauge. Et quand on utilise des fois d'autres espaces, notamment la salle Emstall où ça peut être un peu plus, mais c'est des concerts debout. Ça va être le cas, là on a un concert de reggae qui est prévu le 5 février. Et des fois même encore plus grand, mais ça nous demande des moyens techniques qu'on n'a pas. Donc on a une journée hip-hop qu'on fait à Athlétis là, mais on n'a pas du tout... C'est pas un concert, quoi. C'est une autre approche culturelle.
Alors, vous parliez d'accessibilité. On imagine que votre but, c'est d'attirer le public le plus large et le plus éclectique possible. C'est pas compliqué quand on programme du jazz, justement, de pas rester sur ce public de niche qui vient traditionnellement voir les concerts de jazz. Est-ce qu'on arrive à faire venir, justement, un public un peu éclectique ?
Alors, c'est toute la difficulté de l'action culturelle d'une manière générale, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est confronté à la fois, comme on le disait tout à l'heure, à un problème de moyens. On ne veut pas sacrifier l'exigence. Et en plus, on a un public qui ne vient de moins en moins, alors à certains types d'actions, hein, on est d'accord. Mais c'est un vrai défi. Et en fait, les métiers évoluent justement pour qu'on crée de nouveaux dispositifs, de nouvelles manières de faire. Et je trouve que la soirée du vendredi, là, elle est vraiment typiquement dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'on expérimente une nouvelle approche. Et là, je pense que Nicolas peut en parler.
Oui, alors bon, déjà par rapport au public du jazz, c'est vrai que c'est pas le public du rock ou de la pop, mais il existe quand même. Il y a beaucoup de personnes qui viennent régulièrement, qui sont en demande de concerts de jazz. Il y a qu'à discuter avec le public au sortir des concerts qui sont proposés. Ensuite, c'est vrai que le jazz souffre peut-être de son image, c'est-à-dire qu'on on l'arrête à une époque donnée avec une communauté de personnes bien définies, alors que c'est une musique qui n'a cessé de progresser et d'évoluer, plutôt évoluer que progresser, qui n'a cessé d'évoluer depuis des années, et que les jeunes générations en France, puisqu'on parle de la France, se sont emparés de toutes les influences en dehors de l'histoire du jazz, du rock, de la pop, de musique du monde, et qu'elles ont aussi voulu aller au-delà du simple concert, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et effectivement, la soirée du vendredi soir, j'en parle tout de suite ou on en parle un petit peu plus tard ?
On va peut-être parler du jeudi d'abord ?
Du jeudi, oui, d'accord.
Alors, sur le jeudi, je ne suis pas sûr que je vais me risquer à prononcer le nom. Si, quand même, allez, allons-y. Hildegard Lernfliegen, voilà, ça doit être à peu près ça.
C'est ça, oui.
Alors, vous le présentez comme du jazz espiègle et explosif, c'est-à-dire ?
Alors, franchement, je pense que Nicolas en parlera bien mieux que moi, mais moi, j'ai été séduit tout simplement en écoutant. J'ai trouvé ça extrêmement agréable à écouter et très, très énergique. Voilà.
C'est une formation de jeunes musiciens, jeunes musiciens, ils ont 35-40 ans, mais ouais, donc ils sont jeunes, de jeunes musiciens d'origine suisse et qui pratiquent un jazz assez spontané, on va dire, qui emprunte beaucoup aux musiques de cabaret, aux musiques très festives, mais pas dans le sens forcément latin du terme, mais plutôt, Kurt Weill dans ces esthétiques-là. Donc ça, c'est pour les musiciens, les instrumentistes, et ils sont doublés par un leader chanteur qui est un expert, on va dire, du beatboxing et qui est capable de faire des choses avec sa voix, sa simple voix qui est complètement bluffante. Et ce sont toujours des concerts avec beaucoup d'énergie et en même temps beaucoup de subtilité et de drôlerie. Et c'est certainement pour ça que Claire a présenté le groupe comme ça, parce que c'est vraiment un moment très convivial en fait. Et même s'il y a une vraie exigence musicale, avec de la complexité et puis une contemporanéité, on va dire, de l'esthétique, ça reste tout à fait accessible. Je sais qu'on reproche souvent au jazz d'être un petit peu hermétique, et là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça va être une belle soirée, d'autant plus que c'est un groupe qui est vraiment en pleine ascension.
Alors, on va enfin parler du vendredi. Là, ça risque d'être très convivial, de ce que j'ai compris de la présentation.
C'est le mot salon ?
Ouais, bah, c'est le mot salon. C'est aussi le fait que ce soit présenté comme voilà, quelque chose d'un peu plus intimiste, convivial, presque si, participatif, on va dire ça comme ça.
Tout à fait. Alors, il y a une petite scéno qui a été préparée. Pour qu'on ait une ambiance en fait salon, effectivement, sachant que c'est un dispositif qui est proposé aussi en appartement sur Nantes, sur Tours, et là bah, pour la première fois sur l'agglomération d'Angers, je crois. Voilà.
Donc en fait, c'est à l'initiative d'un contrebassiste qui vit à Nantes, qui s'appelle Sébastien Boisseau, et qui est un contrebassiste qui, à l'heure actuelle, est reconnu par ses pairs, notamment en France, mais également partout en Europe. Il a joué avec les plus grands, Michel Portal, Louis Clavis, Joachim Kühn. Et donc en fait, lui, justement, pour essayer de rompre un petit peu cette barrière qui peut exister entre la musique et le public, il a décidé de mettre en place des salons de musique, qui lui permettent en fait de présenter sa musique généralement avec un autre musicien pour être dans une formation assez réduite chez l'habitant et de jouer un petit peu quelques minutes, 7-8 minutes et après d'interpeller le public sur la musique qui vient d'être jouée de façon à expliquer quelle est la part d'improvisation, quelle est la part d'écriture, quelle est la part d'instantanéité qui a permis de créer cette musique. Et les gens, au début, qui sont un petit peu déroutés par cette musique improvisée, finissent par y rentrer, et du coup, après, ils rejouent par derrière. Et là, c'est plus du tout la même approche, et ainsi de suite, ça dure à peu près une heure, et ça permet d'aller plus en avant dans la compréhension de cette musique pour les gens qui n'y connaîtraient rien ou qui voudraient justement en savoir un petit peu plus. Donc ça s'appelle Musique de Salon, et je vous invite à aller consulter leur site qui s'appelle musiquedesalon.com, qui développe un petit peu tout ce que je viens d'expliquer.
Ce sera la médiathèque.
À la médiathèque, oui, effectivement. Et samedi, on revient au Théâtre des Dames.
Tout à fait.
Et là, ça risque de déménager, de ce que j'ai compris, avec le Camiliacus Jazz Band. Là, c'est direction la Nouvelle-Orléans.
Tout à fait. Direction la Nouvelle-Orléans. Donc, point de repère, en fait, plus, on va dire, rassurant, en fait, pour le public. Mais grande qualité des musiciens. Et voilà, la promesse d'une clôture... vraiment festive en fait pour ce temps fort.
Et puis aussi dire que c'est un groupe du Maine-et-Loire en fait, puisqu'ils sont de Chemillé, qui est une belle activité de jazz à Chemillé, notamment avec un festival je ne sais plus quelle période, en juin, juillet, je ne sais plus.
Camiliacus
Jazz Festival. Et donc voilà, c'est des gens du coin, on va dire. Et ils proposent une belle musique, ouais, typée New Orleans, avec beaucoup d'efficacité.
Et en se faisant très plaisir sur scène.
Bon, bah, très bien, ça vous tente. Là, je me tourne vers Nils Benning, Yvan-Ri Guillonnet.
Bah, oui, ça nous tente d'aller voir des spectacles de toute façon, évidemment. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de se poser la question effectivement des accessibilités au public. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans les propositions, le public se déplace, rentre dans des théâtres qui sont parfois un petit peu intimidants, pour ne pas dire plus, quoi, qu'on pourrait appeler des temples de la culture parfois, et donc c'est forcément intimidant. Qu'est-ce que c'est que de proposer justement quelque chose qui soit accessible en termes d'expliquer les procédés de création? Moi, je trouve que c'est très intéressant qu'ils expliquent d'une certaine manière, en tout cas qu'ils ouvrent une porte pour le public à la compréhension de ce qu'ils font, c'est-à-dire on n'est pas dans la magie non plus, on est avant tout dans quelque chose qui doit nous rapprocher, qui doit ouvrir faire l'ouvroir du sensible chez les gens, de l'imaginaire. Et donc sortir des étiquettes, sortir des choses qui nous... Quand on met une étiquette, par exemple, sur une musique, il s'avère qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont pas la culture pour dire, danse contemporaine, ça veut dire quoi ? Jazz improvisé, ça veut dire quoi ? De suite, c'est intimidant, c'est une barrière, c'est quelque chose qui va empêcher simplement la rencontre. Voilà. On peut dire avec Nils, on a un groupe de musique improvisée et on préfère dire que c'est de la musique libre parce que c'est aussi la liberté de la recevoir d'une certaine manière et pas avec des codes, avec un mode d'emploi qu'il faudrait connaître. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse de toute façon quand il y a cet état d'esprit derrière un rendez-vous, quoi.
Donc, on vous verra sans doute au Jazz aux Dames.
Eh bien, si je n'ai pas autre chose à faire, je ne sais pas, il faut que je regarde mon agenda. Peut-être que je suis en tournée internationale, on ne sait pas. avec grand intérêt, oui, bien sûr.
Eh bien, on parle de la galerie en face, juste après Skins et le titre Tomorrow. Vous êtes toujours dans le sous-marin sur campus. Et puis, nous, on est toujours en compagnie de... oui, petit bug technique, ça arrive, c'est comme ça. On est toujours en compagnie de Claire M. Pondosadé, de Nicolas Dourliez et évidemment de Nils Benning et de Yves-Henri Guillonnet. On va parler tout de suite de la galerie en face. Galerie, qui est une galerie associative qui fête ses 3 ans. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'origine du projet ?
Bien sûr. Alors, sur les origines du projet, donc, Amandine Boyer et moi-même sortions des Beaux-Arts. Alors pour ma part, c'était il y a 3 ans. Pour Amandine, c'était il y a 4 ans. En sortant des Beaux-Arts, on avait cette volonté de directement mettre le pied à l'étrier pour rester dans le domaine de nos études, parce que c'est un domaine qui nous passionne et dont on aimerait faire aussi notre métier, bien sûr. Et la démarche était de monter une galerie d'art contemporain pour tenter d'apporter une alternative dans le marché de l'art local, d'offrir simplement l'opportunité pour les artistes émergents et locaux d'exposer et aussi bien sûr de permettre au public de rencontrer ces les artistes. Donc d'échanger avec eux, d'acquérir une œuvre originale à un prix accessible. Et donc par tous ces moyens-là, c'est aussi défendre l'idée d'un non-élitisme dans l'art, quoi.
Pourquoi se monter justement en association et pas faire une galerie simplement? Vous vouliez faire plus que exposer, vendre des œuvres?
Eh bien, alors l'association, elle est venue. On a commencé donc à monter cette galerie il y a 3 ans. On était porté par une structure qui s'appelle Coup de pouce 49, qui fait du portage salarial. Donc c'était un moyen pour nous de commencer notre activité, de la tester, de voir ce qui nous convenait, ce qui nous convenait pas. Et au bout d'un an, il s'avérait qu'avec tout le réseau et toutes les communications, tous les échanges qui se sont faits avec les artistes, avec le public aussi qui visite la galerie, ça semblait évident pour nous en fait de créer une asso pour ouvrir donc les portes pour permettre à plus de monde d'être acteur de ce lieu culturel, quoi. Et donc de pouvoir proposer et puis vivre avec nous donc cette expérience, quoi.
Thibaut.
Ah oui.
Avec le micro, c'est
voilà,
mieux.
Avec le micro, ça marche beaucoup mieux. Je me demandais si vous aviez rencontré des difficultés particulières au cours de ces 3 ans.
Non, pas du tout. Tout s'est très, très bien passé. Le vol aussi s'est bien passé. Non, mais des difficultés, dans quel sens
Que ce soit des soucis, je sais pas, techniques, de subventions, de rencontres avec des gens.
Il y a des difficultés de fonctionnement, bien sûr, de toute façon, puisqu'on a des tout petits moyens, que l'association est totalement indépendante aujourd'hui. Elle ne fonctionne que sur des fonds privés et sur la dynamique de groupe, vraiment, et qui, comme le disait Nils au début, était vraiment ce qui a poussé à monter ce statut juridique d'association, parce que vraiment, ça correspond à cette envie d'ouverture. Donc les difficultés, elles sont évidemment d'ordre financier, elles sont d'ordre aussi de calendrier, puisque comme on est une équipe de bénévoles, bah, il faut en dehors de son métier, en dehors de ses activités, pouvoir entretenir le travail. Donc voilà, c'est surtout des problématiques comme ça, mais rien n'est insurmontable pour l'instant, vraiment. Et au contraire, on est porté par quelque chose qui nous pousse à croire que tout est possible, justement, dans l'invention d'une société dont on est plus qu'acteur, c'est-à-dire que quand on dit « je suis la société », pour nous, ça veut vraiment dire quelque chose. On ne peut pas avoir une galerie qui a pignon sur rue, avec des activités qui sont portées vers la société civile, etc., sans avoir une conscience politique, sans avoir une vraie idée à partager. Donc nous, on se sent vraiment conforté en fait, par le travail qu'on fait depuis 3 ans, par la dynamique des adhérents, par la dynamique qui se retrouve autour des idées qu'on souhaite partager, qui sont toujours discutées dans tous les sens. Voilà.
Justement, vous fonctionnez avec combien de bénévoles? Il y a combien d'adhérents à la galerie?
Il y a environ une 60aine d'adhérents, c'est ça, Nils?
C'est ça.
Et environ une 40aine de personnes en plus qui tournent autour du projet qu'on propose.
Oui, il faut quand même pas mal de monde pour faire fonctionner ça.
Oui, oui, il faut pas mal de monde.
D'ailleurs, on est toujours à la recherche d'adhérents et de forces vives donc, pour prendre ce train qui est en route. Là. Donc, voilà,
c'est... Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on propose. Et puis après, la dynamique pour nous, c'est toujours d'avoir les bras grands ouverts, mais pas juste comme une idée, quoi. Comme une vue de l'esprit, mais vraiment concrètement, comment repenser cette manière d'avancer tous ensemble, de travailler ensemble. On discutait tout à l'heure avec Claire justement de la manière dont les institutions, les privés, les structures en général impulsent le travail ensemble, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve des solutions ensemble dans cette société pour avancer avec des choses qui nous font vibrer, quoi, vraiment, et qui font vibrer. Enfin, je pense que la poésie, l'art, la culture, c'est un mot un peu fourre-tout, mais vraiment la poésie, c'est quelque chose qui fait vibrer la société, qu'il faut reprendre vraiment en main, la refaire vivre, la montrer, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble tous et qui ne pose pas question sur sa pertinence sensible, quoi. Et je crois que tout nous porte aujourd'hui dans notre société à aller vers plus de sensible et moins de quantifiable, quoi.
Thibaut ?
Vous vous êtes inspiré de lieux, de structures, de façons de faire que vous avez pu voir ailleurs, ou vous êtes vraiment parti de rien et vous avez défriché par vous-même ?
Alors, on a pris connaissance d'un grand nombre de structures qui existent. On a aussi voulu faire les choses d'une manière plutôt intuitive, c'est-à-dire essayer de respecter aussi ce que l'on pense, les convictions que nous avons, et tout en restant humble et en se reposant des questions régulièrement pour réévaluer, quoi.
Et de votre expérience, vous diriez que l'art aujourd'hui, ça s'est plus ou moins démocratisé, ou ça reste, je ne vais pas dire réservé, mais peut-être destiné à un public de niche ?
Alors, ce qu'on observe, c'est que les visiteurs de la galerie, eh bien, sont de tout âge. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et de milieux sociaux très variés. Et donc, finalement, je pense que l'art s'adresse bien sûr à tout le monde, vraiment, quoi. Donc, sans aucune distinction. Disons que notre approche aussi va être de questionner le sensible plutôt que de devoir. Questionner des codes qui existent, hein, mais en fait, c'est vraiment faire appel à ce que ressentent les gens, parce qu'on n'a pas besoin de connaître de manière très pointue tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art pour seulement apprécier, quoi. Donc voilà.
Est-ce que c'est aussi valable pour vos bénévoles ? Je ne sais pas, est-ce que par exemple, il y en a certains qui sont venus en tant que simples visiteurs, ils étaient curieux, ils ont poussé la porte, ils n'avaient pas trop de pieds dans l'art, et puis d'un coup, ils ont eu envie de s'emparer du projet, de mettre la main à la pâte, quoi.
Bien sûr. Alors, ce qui se passe, parmi les adhérents de la galerie, il y a beaucoup d'artistes, mais... Pas seulement. Et c'est justement ce pas seulement aussi qui ouvre vers d'autres champs, vers d'autres compétences. Ce sont des personnes qui vont pouvoir aussi voir ce qui se passe d'un autre angle, avec un autre regard. Et ça va nous éclairer aussi dans nos démarches, quoi.
Ivory Guillonnet, hein. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Disons que moi, j'aime bien cette question de savoir ce qu'on fait avec la manière de montrer en fait, les propositions artistiques. Je crois que en fait, ça fait partie des propositions artistiques de se demander comment on les montre. Et que pendant longtemps, depuis longtemps maintenant, on a des outils de monstration qui sont des théâtres, qui sont des scènes, des voilà, et qui sont rarement repensés en fait. Et à la galerie, il y a cette volonté à chaque fois, quand on voit une œuvre et qu'on va l'exposer, de penser comment on va l'exposer en rapport avec son contenu. Et je crois que tous ces éléments-là, tous ces éléments de qui nous poussent à repenser à chaque fois nos actions, etc., se ressentent. Et ça finit de boucler avec ta question sur la manière dont le public, les visiteurs accèdent et vont peut-être participer au projet de l'association. C'est que ça se voit, ça transpire en fait, cette manière de vouloir prendre en compte le regard des gens qu'on ne connaît pas, qui vont arriver et qui vont... Voilà, il faut qu'il fasse un chemin vers l'œuvre. Il faut que ce chemin il soit possible et pas juste, comment dire, encore une fois, avec des codes qui évitent de penser, qui évitent de ressentir, enfin, qui nous mettent en face encore de choses qu'on calque sur une réalité, quoi. C'est artificiel. Voilà.
Thibaut ?
Donc, à l'occasion de vos 3 ans, vous exposez actuellement 22 artistes. Vous avez créé des liens, je suppose, avec certains d'entre eux pendant ces 3 ans. C'est des retours que vous avez, c'est des gens que vous recroisez, ou vous privilégiez quand même la découverte toujours pour cette exposition ?
Alors, pour cette exposition, un grand nombre des artistes qui sont donc présents ont déjà exposé dans notre galerie. C'était donc aussi un moyen de pouvoir faire redécouvrir des artistes qui sont déjà par là, mais aussi d'en faire découvrir de nouveaux, parce qu'il y a en fait et des artistes qui ont déjà exposé et d'autres pour qui c'est la première fois qu'ils exposent dans cette galerie.
Nicolas Douriez, Claire M. Pondo-Sadé, vous connaissiez la galerie en face vous avez peut-être déjà vu l'exposition, vous êtes peut-être déjà passé chez eux, non ?
Alors, je connais un peu, mais pas assez. Donc, je découvre en fait une bonne partie du projet et je trouve que c'est fascinant, c'est enthousiasmant.
Nicolas Douriez ?
Alors moi je connaissais pas du tout, mais en fait je me rends compte que dans nos domaines respectifs, en fait les problématiques sont exactement les mêmes et que les moyens de les traiter sont vraiment à peu près équivalentes et tout à fait dans l'air du temps.
C'est pour ça qu'il est intéressant qu'on croise nos expériences et qu'on se demande comment on travaille ensemble, même quand ça paraît pas évident, dans les matières qu'on travaille.
Et c'est aussi pour ça qu'on voulait que vous veniez en même temps sur notre plateau. On s'écoute une musique et on revient juste après. Vous êtes toujours dans le sous-marin sur campus. À l'instant, vous venez d'entendre le titre « Voyage » de Casravé. Yves-Henri Guillonnet, vous vouliez rajouter quelque chose juste avant qu'on passe au cabinet des curiosités d'Antoine.
Eh bien, en fait, tout simplement, on voulait rappeler que l'association En Face est aussi un collectif d'artistes, qu'on exerce dans de nombreuses disciplines, qu'on est ouvert aux échanges, aux propositions et que surtout, on invite tout le monde à vivre l'aventure collective. Que ça, c'est vraiment important qu'on le dise. À venir nous rencontrer, à échanger sur vos projets et sur les nôtres. Et puis, notamment, l'association, donc, elle met en place elle-même des projets, et notamment la plateforme. La plateforme qui est une installation flottante d'expérimentation artistique et végétale. En gros, ce sont des œuvres d'art, des véritables œuvres d'art dans l'espace flottant, qui sont aussi des jardins végétalisés, qui sont aussi une architecture évolutive et qui sont à la croisée de plein de chemins pour que les gens se rencontrent au sein d'ateliers participatifs, amènent leurs compétences, leurs idées, etc. Donc tout ça, il est important que ce soit dit parce que ce n'est pas une posture pour nous. C'est vraiment une réelle envie à chaque fois d'échanger sur tout ça. Donc venez nous rencontrer à la galerie, que vous soyez cucurbitacé ou non. et puis on discutera de tout ça. Voilà.
Très bien. Et ben, nous, on va voir si Antoine nous a fait de l'art ce soir.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Alors bonsoir Antoine.
Bonsoir Pierre-Louis, et pour info j'ai quand même une formation en histoire de l'art, donc bon.
Ah, ça nous rassure. Alors ce soir tu vas pas nous parler de la COP21, mais de la presse dans le Nord et de notre belle région.
Et oui Pierre-Louis, nous sommes à 6 jours du premier tour des élections régionales, et le grand quotidien du Nord, La Voix du Nord, qui a choisi aujourd'hui de titrer sur un constat qui a eu sa rédaction. Pourquoi une victoire du FN nous inquiète, je cite. Les arguments du journal contre le FN en 5 points sont assez simples. Le premier, parce que nous ne portons pas les mêmes valeurs, parce qu'il n'a pas l'expérience, parce que la région est naturellement ouverte, parce qu'il se contredit, parce qu'il menace la solidarité nordiste. Et donc ces arguments, ils sont assez forts, clairs et transposables, malheureusement, dans d'autres régions. Par ailleurs, Jean-Michel Bretonnier, le rédac-chef, a été plus loin que ses 5 clés dans son édito. Je cite, « Nous vous montrons un autre visage de Marine Le Pen et du Front National, à chacun désormais de savoir s'il veut les porter à la tête de la région. Ils sont expliqués par la suite. Le Front National n'est donc pas la solution, mais il apparaît pourtant aux yeux de beaucoup des électeurs comme leur dernière chance. Dans notre région notamment, le parti de Marine Le Pen surfe sur le rejet violent de la classe politique, droite et gauche confondues. S'installe alors cette fausse logique qui veut que le Front National réussisse là où les autres ont failli, puisqu'il est différent. Or, tout n'a pas échoué depuis 30 ans et le pire est toujours possible. » Et La Voix du Nord n'est pas le seul quotidien d'ailleurs à titrer sur ça. Nord et Clair, quant à eux, ils ont titré « La région a-t-elle vraiment besoin du Front National ?» Alors forcément, vous vous en doutez bien, la rédaction de la fille du plus célèbre Banque de France ne s'est pas fait attendre. C'était ce matin chez nos confrères de RTL. Je la cite. « C'est profondément scandaleux. Ils ont fait 2 pages aujourd'hui. Ils font 2 pages aussi demain de tract, car c'est un tract pour le Parti Socialiste. » En ajoutant également que c'est la contrepartie des 9 millions de subventions qu'ils ont touchées de la part du Conseil Régional Socialiste face à un Olivier Azerolle totalement dépassé par le refrain. Manque de bol, l'un des journalistes du quotidien, Sébastien Noé, a rappelé en citant quelques journaux confrères sur Twitter que la région ne donne pas un sou à l'organe de presse. Alors il faut cependant noter que c'est l'une des rares fois où un journal régional prend parti à ce point. Preuve que c'est aussi là le travail peut-être de journaliste d'éveiller les consciences, par lui.
Alors, tu restes dans l'actualité politique, mais tu vas te rapprocher de chez nous avec le probable dernier sondage pour ces élections régionales en Pays de la Loire.
Eh oui, l'hôtel de région à Nantes sera-t-il toujours socialiste dans quelques jours? Selon son nouveau sondage BVA réalisé après les attentats de Paris d'il y a 3 semaines, donne à nouveau la liste de droite et du centre menée par Bruno Retailleau gagnante en Pays de la Loire avec pas moins de 42% des suffrages exprimés au second tour devant le PS à 34% et le Front National à 24%. Alors qu'au premier tour, il y a donc 10 listes qui vont s'affronter dimanche prochain, le sondage désigne une poussée importante du FN menée par Pascal Gana, celui-là même qui soutient sans aucun souci l'idée magnifique de Marion Maréchal Le Pen de couper les vivres au planning familial. Quelle belle ambiance à droite, il y a vraiment quelque chose de pourri au Royaume de France. Alors qu'une première enquête qui remonte à octobre lui donnait le score de 16%, les intentions montraient aujourd'hui à 23%, soit seulement un petit point de moins que la liste de Christophe Clargeau, le PS arrivant juste derrière. Donc tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller voter dimanche prochain, de voter intelligemment, c'est toujours mieux de voter même blanc plutôt que de rester résigné chez soi à regarder la télé ou de se planter de bulletin. Bonne semaine, prenez soin de vous.
Merci beaucoup Antoine. Tout de suite, c'est l'heure de la bulle sonore et à l'honneur, eh bien, tout simplement, c'est sabotage puisque la semaine dernière, c'était le grand retour du punk en version originale, hein, s'il vous plaît, sur les ondes de Campus.
There's my boys from Kent. That was from their album Sugarcoated Bittersweet Truth, something like that. Anyway, they've got a new album out which has been nominated for the Mercury Award in the UK, so we're rooting for them to win, although the set list for this year is mayhem. I don't know if they'll win it. Punk to win the Mercury Prize? We shall see. What's next? Because we're playing songs from old shows, I have written down this one. This is called We Are the Future. It's by a band called Gloss. Gloss is in capitals because it stands for Girls Living Out Society's Shit.
They told us we were girls, and we talked just fucking cry. They told us we were girls, so we claimed our female lives. Now they tell us we are girls. Our femininity doesn't fit. We're fucking future girls living outside society.
Voilà, vous pouvez retrouver Megan chaque mardi de 22 à 23h. Eh bien, il est 19h55, hein, c'est l'heure de nous quitter. Alors, merci Claire Mpondo-Sadé et Nicolas Dourliez d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir.
Partagez. Remercie également Yvan-Ri Guillonnet et Nils Benning d'avoir fait un petit tour dans nos studios.
Merci Pierre-Louis. Et puis juste dire que l'exposition qui est installée en ce moment à la galerie dure jusqu'au 10 janvier et qu'il y a diverses choses à venir chiner. Voilà.
Et on en profite.
Je rajoute juste, mais peut-être que tu allais le dire, excuse-moi.
Eh bien exactement, j'allais venir, mais allez-y.
Donc,
allez-y.
Du coup, j'anticipe. En fait, juste pour dire que la prestation, le concert en salon du vendredi soir sera gratuite et sera à la médiathèque des Ponts de Cé, pas au Théâtre des Dames comme les autres soirées. Merci.
Et donc, n'hésitez pas, pour des renseignements, à aller faire un tour sur le site de la mairie des Ponts de Cé ou... évidemment, sur le site de la galerie en face, hein, on vous trouve sur Internet sans trop de problèmes. Et ben, un grand merci également à Antoine et Thibaut d'avoir participé à cette émission. On n'oublie évidemment pas Quentin qui était aux manettes techniques ce soir et Étienne à la réalisation. Moi, je vous dis à demain, même heure, même fréquence.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.